de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir à tous, comment allez-vous ce soir? Vous êtes avec moi Audrey, je suis très heureux de vous retrouver à l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition de vendredi le 14 février 2020. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et bientôt nous allons commencer avec le journal d'aujourd'hui, le commentaire et d'autres informations. Entre autres, l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur, des chansons indonésiennes et magazine musical. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. L'OAA et le ministère de l'Agriculture coopèrent avec les agriculteurs frontaliers du Kalimantan occidental pour une production de riz saine. Le ministre indonésien du Commerce, Agus Suparmanto, achèvera les négociations sur le système généralisé de préférence. Profiter du recensement de la population 2020 pour optimiser les bonus démographiques. La Chine a renvoyé le chef du parti communiste de la province Hubei. L'augmentation du nombre de victimes du COVID-19 sur les croisières japonaises à 218. Le cerveau de l'auteur sur la terreur de Mumbai, condamné à près de 6 ans de prison. La compagnie Airbus a perdu des milliards d'euros en 2019. Voici le bulletin complet. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, OAA, et le ministère indonésien de l'Agriculture collaborent avec un certain nombre d'agriculteurs de la région frontalière Indo-Malaise en région Sangau, en province Kalimantan Ouest, pour gérer les terres agricoles à l'aide de matériaux biologiques afin de produire du riz sain à des prix élevés. Cela a été dit jeudi par le chef adjoint de la division des programmes de l'OAA en Indonésie, Ageng Herianto, à Pontianak, cité par Antara. Il a ajouté que des efforts pour l'agriculture biologique avaient été lancés depuis 2016. Il a également expliqué avec le ministère de l'Agriculture que l'OAA a augmenté la capacité des agriculteurs et l'agent de vulgarisateur en région Sangau sur les principes et les pratiques de l'agriculture biologique par le biais de la formation, y compris le processus de préparation pour obtenir la certification biologique. Le ministre indonésien du Commerce, Agus Suparmanto, s'est rendu à Washington DC, aux États-Unis, pour discuter des négociations sur la solution du système généralisé de préférence GSP, d'Amérique à l'Indonésie. À Washington, le ministre Agus a rencontré jeudi le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, afin de discuter d'un certain nombre de points qui n'ont pas encore été approuvés par les deux pays. Il a déclaré que le GSP est bénéfique pour l'Indonésie, de sorte que les produits d'exportation indonésiens bénéficient à nouveau d'un mécanisme général d'incitation tarifaire préférentielle. Il espère qu'avec l'achèvement des négociations sur le GSP, il pourra stimuler les exportations de produits de l'Indonésie vers les États-Unis. D'un autre côté, pour l'Amérique, l'octroi de GSP est également bénéfique, car en tant qu'importateur, ce pays obtiendra des produits de qualité moins chers. Les données générées par les activités du recensement de la population en 2020 pourraient être utilisées afin d'optimiser les avantages de bonus démographique qui est maintenant joui par la République d'Indonésie. Le bonus démographique a été commencé à s'ouvrir en 2012 et est fermé en 2036. Le sommet du bonus démographique a eu lieu en 2021. Cela a été dit par le député de l'Agence centrale des statistiques, BPS, pour les statistiques sociales, Margot Yuwono, dans le forum de Merdeka Barat sur recensement de la population 2020, une donnée indonésienne tenue par le ministère de la Communication et de l'Information à Jakarta jeudi. Le recensement de la population 2020 est le premier à mettre en œuvre un système en ligne qui est également appelé le recensement indépendant, qui sera débuté de février à mars 2020. Selon Margot Yuwono, les données du recensement peuvent être utilisées comme élan pour le pays afin de créer de bons emplois dans diverses régions. La Chine a limogé le chef du Parti communiste de la province de Hubei, Jiang Shaoling, jeudi 13 février. Son poste a été remplacé par le maire de Shanghai, Yin Yong. Le licenciement de Jiang a été effectué après que le bilan des décès dus à l'infection COVID-19 ait établi un nouveau record mercredi qui a atteint 242 personnes. Le record précédent a été enregistré lundi lorsque 103 personnes sont mortes. Des responsables antérieurs ont affirmé avoir adopté une nouvelle méthodologie pour compter les infections. Il n'était pas clair comment la méthodologie affectait les résultats ou pourquoi le taux de mortalité avait fortement augmenté. En général, l'infection COVID-19 a ralenti, mais le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que tout ralentissement observé dans la propagation de l'épidémie doit être considéré avec une extrême prudence. Les croisiéristes Diamond Princess dans les eaux de Yokohama au Japon, infectés par le virus corona, sont passés à 218, y compris les agents de quarantaine. Le nombre de victimes a augmenté après que le ministère japonais de la Santé a signalé 44 nouveaux cas jeudi. Cité par l'AFP, le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a déclaré que les autorités commenceraient à éloigner les personnes âgées du navire si les résultats des tests montrés en COVID-19 étaient négatifs. Le plan est qu'ils seront placés dans une auberge nommée par le gouvernement. navire de croisière Diamond Princess, mis en quarantaine au large des côtes de Yokohama depuis le 3 février dernier. Les autorités japonaises ont observé environ 300 personnes sur un total de 3711 passagers à bord du navire. Selon le protocole, le processus de quarantaine se déroule pendant 14 jours à partir du 5 février. Le tribunal pakistanais aurait condamné près de 6 ans de prison au cerveau de l'attentat terroriste de Mumbai en 2008, Hafiz Saeed. Saeed a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation liés au terrorisme, notamment le fait d'appartenir à un groupe interdit et de posséder illégalement des biens. C'est ce qu'a rapporté l'AFP. Jeudi, le verdict a été rendu lorsque le Pakistan a menacé d'être inscrit sur la liste noire du Financial Task Force, GAFI, une agence de surveillance des pratiques de lavage basée à Paris, en France. Le Pakistan est considéré comme n'ayant pas supervisé les pratiques financières utilisées par les groupes terroristes pour financer des actes de terrorisme. Airbus Airlines a enregistré des pertes de 1,36 milliard d'euros l'année dernière après avoir été frappé d'une amende de 3,6 milliards d'euros pour le scandale de la corruption et des coûts de développement supplémentaires pour l'avion de transport A400M. C'est ce qu'a rapporté RFI français sur son site internet le jeudi 13 février 2020. Selon RFI News, la société Airbus, par l'intermédiaire de son directeur général, Guillaume Faury, a déclaré qu'en 2019, la direction d'Airbus avait réalisé une solide performance financière, principalement tirée par les expéditions d'avions commerciaux. Les bénéfices déclarés reflètent également l'accord final avec les autorités dans le but de mener à bien une enquête de conformité et des allégations concernant les hypothèses d'exportation révisé pour l'avion A400M. Airbus a accepté de payer une amende de 3,6 milliards d'euros à la Grande-Bretagne, à la France et aux États-Unis pour répondre aux allégations de corruption déclenchées par des ventes suspectes. Plus tôt, la compagnie Airbus a déclaré que les commandes d'avions commerciaux était passé à 768 unités l'année dernière contre 747 en 2018. Cher ami, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre l'addition des femmes au sein du cabinet Boris Johnson. Le premier ministre britannique Boris Johnson envisage un remaniement de son cabinet après avoir été élu avec succès à la tête du gouvernement britannique. Il a servi avec succès comme premier ministre après que le parti conservateur qu'il dirige a remporté les élections après le choc du Brexit. Johnson va remodeler le cabinet en envisageant d'augmenter le nombre de femmes ministres. L'ajout du quota de femmes au sein du cabinet de Boris Johnson est effectué en raison de demandes de diverses parties pour que le premier ministre augmente le nombre de femmes ministres dans le cabinet. Les nouvelles dans divers médias au Royaume-Uni ont rapporté la spéculation de l'élimination imminente d'au moins 3 femmes ministres du cabinet de Boris Johnson. 3 noms prévus par les médias seront supprimés, à savoir Theresa Villiers, Andrea Lansom et Liz Truss. Sur la spéculation, il y a la pression pour que Boris Johnson continue de placer des femmes dans son cabinet. En réponse, le gouvernement a veillé à ce que la représentation des femmes au sein du cabinet soit maintenue. Les médias nationaux ont estimé que 5 femmes entreraient dans le nouveau cabinet de Johnson. Le montant est plus qu'avant. La partie antenne du gouvernement a révélé que si actuellement la femme ministre n'était que de 18% lors du prochain remaniement, le nombre atteindrait 60% de la composition du cabinet. Un remaniement ministériel a été effectué par Boris Johnson pour faciliter le chemin de son administration, principalement pour anticiper la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Plusieurs ministres du cabinet actuel sont remplacés. Avant la mise en œuvre des élections, Boris Johnson a souvent rencontré des problèmes avec le Parlement et plusieurs ministres de son cabinet. Dans cette perspective, un remaniement est effectué. En plus de rendre efficace son gouvernement, l'augmentation du nombre de femmes dans le nouveau cabinet peut également améliorer l'image de Boris Johnson aux yeux du peuple britannique. Pour cette raison, Boris Johnson doit certainement être prudent dans le choix des figures féminines qu'il choisira. La considération n'est certainement pas seulement bonne aux yeux de la communauté, mais surtout le bon fonctionnement du gouvernement. Serge Dutor, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 février. Le 14 février 1945, la rébellion PETA à Blitar, Javaès. Le 14 février 1945, les forces de défense de la patrie PETA à Blitar, sous la direction de Supriyadi, se sont rebellées contre les envahisseurs japonais. Le plan de la rébellion a été enflammé parce que les jeunes commandants ont été touchés de voir les souffrances du peuple indonésien traités comme des esclaves par l'armée japonaise. La rébellion a été contrecarrée par l'armée japonaise. Environ 78 officiers et soldats de PETA de Blitar ont finalement été arrêtés et jetés en prison, puis jugé à Jakarta. Le 14 février 1946, le drapeau rouge-blanc a flotté pour la première fois à Manado, Sulawesi Nord. Après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie, le 17 août 1945, la majeure partie de l'est de l'Indonésie était toujours contrôlée par les envahisseurs. Pour y réaliser l'indépendance indonésienne, les nationalistes de Sulawesi Nord ont rassemblé tout le pouvoir potentiel pour mener la résistance. Audacieusement, à exactement 1h minuit, le 14 février 1946, des combattants régionaux de Sulawesi Nord dirigés par des commandants Taulu et Wisan, assistés par des commandants Franz Bismann et Freddy Lumanau, ont mené des attaques et capturé tous les soldats et commandants des envahisseurs néerlandais de Manado, Tomohon à Tonsea. Dans l'après-midi, le commandant de l'armée royale des Indes néerlandaises, KNIL, de Vries, a été contraint de reconnaître l'indépendance de l'Indonésie et de renoncer au flottement rouge et blanc pour la première fois à Sulawesi Nord. Le 14 février 2005, l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri a été tué dans une explosion de bombe à l'ouest de la capitale Beyrouth. La tentative d'assassinat de Hariri a également tué 9 personnes et blessé 100 autres. Environ 300 kg d'explosifs ont explosé juste au moment où son cortège passé devant l'hôtel Saint-Georges à Beyrouth. Les tueries ont eu lieu dans un contexte de tensions politiques croissantes entre la Syrie, qui est un allié politique du Liban, et l'opposition. Hariri venait de démissionner de son poste de premier ministre libanais en octobre 2004 et a rejoint l'opposition. Cher ami, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Dias indah warna tawa beranjak tinggalkan wajahku terlihat jejak hampa tak bermakna merampas semangat yang dulu.
Stay true to get through all is from your heart, always from your heart.
Chers amis, c'était la chanson intitulée « Satu » en français « 1 » chantée par Gamal Audrey Chantika. Restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le temps pour mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « Le gouvernement réduit les importations de fer et d'acier ». Le président Joko Widodo a ordonné à les ministres de l'économie du cabinet Indonésia Maju de créer les politiques susceptibles de réduire la valeur des importations de fer et d'acier. La grande quantité d'importation d'acier est l'une des sources du déficit de la balance commerciale indonésienne. Sur la base des données de l'Agence centrale de statistiques, ou BPS, la valeur totale des importations de fer et d'acier en Indonésie en 2019 a atteint 100,3 milliards de dollars, en légère hausse de 2018 qui a touché 10,2 milliards de dollars américains. Avec autant de valeur, le fer et l'acier sont désormais le deuxième plus grand produit importé en Indonésie après les machines et le matériel électrique. Le président Joko Widodo au bureau présidentiel de Jakarta mercredi a demandé que cette tendance négative soit immédiatement achevée. Si la politique d'importation continue à être ouverte à grande échelle, les services publics locaux des aciéries ne se développeront jamais et l'industrie ne pourra pas progresser. En fait, selon le président Jokowi, l'industrie nationale a pu produire une partie du fer et de l'acier importé. Par conséquent, il a encouragé les ministres de l'économie de fournir une réglementation qui encourage la production nationale de fer et de l'acier, telle que l'approvisionnement en matières premières qui est plus facile et moins cher. Le président Jokowi a souligné que l'Indonésie doit améliorer l'écosystème de l'approvisionnement en matières premières pour les industries sidérurgiques telles que la disponibilité et la stabilité des prix des matières premières. Selon le président, les matières premières provenant des produits miniers nationaux peuvent être priorisées pour être utilisées afin d'augmenter la valeur ajoutée dans le pays. Il s'agit non seulement de réduire les importations, mais aussi de créer des emplois. En réponse à la demande du président, le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang, s'est assuré qu'il réduirait les importations de matières premières de fer et d'acier. Cette décision a été prise pour renforcer la compétitivité de la production industrielle nationale, afin que l'Indonésie ne dépende pas constamment de l'acier importé. L'une des matières premières à assouplir est la ferraille de métal, qui est la matière première pour la production d'acier à billets. Sur les besoins totaux de 14 millions de tonnes par an, l'industrie nationale de la ferraille ne peut fournir que 5 millions de tonnes, de sorte qu'il reste encore environ 9 millions de tonnes à emporter de l'étranger. Cependant, dans le but de protéger l'industrie nationale de la ferraille et de réduire l'importation de déchets non dangereux et toxiques, les importations de ferraille sont limitées à seulement 5 millions de tonnes. Serge Ritor, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Katakanlah, takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah, agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Nyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan that when I say I love you, I really do. You know I really, really do. Suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan I really do. Cinta yang sama. Cinta
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson de The Overtune, intitulée Bukan Sekedar Kata. Pas seulement un mot. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz. Et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant Kupat Sableng, la nourriture typique de Brebes. Le ketupat ou kupat est un aliment indonésien typique à base de riz enveloppé dans de jeunes feuilles de noix de coco tissées, soit janur. Cette nourriture est généralement présente dans les célébrations religieuses comme l'Eid al-Fitr et consommée avec d'autres plats d'accompagnement. Les Indonésiens connaissent différents types de ketupat et chaque région a ses propres caractéristiques. Si vous allez à Brebes, Jawa Sangkal, vous trouverez une variante de la nourriture de ketupat, à savoir kupat sableng. Si vous y allez, essayez de profiter de ses saveurs épicées et savoureuses. Ce culinaire original de Brebes combine ketupat, la sauce au lait de coco et le saté blengong comme accompagnement. Le saté blengong est un saté fabriqué à partir de viande blengong. Blengong est une combinaison de volaille de canard et de mentok, soit canard serati. Initialement, la viande blengong a été marinée avec du lait de coco et poignardée avec un long bâton. Après le suintement des épices, le saté est ensuite brûlé au charbon de bois. Lorsque vous achetez kupat sableng, vous pouvez demander combien de piment sera mélangé dans la sauce de ketupat. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nourriture épicée, vous pouvez demander beaucoup de piment à ajouter. Pour ceux qui ne l'aiment pas, vous avez juste besoin d'un peu de piment. Ou pas du tout. Lorsqu'il est mangé, il a un goût si typique de bouillon de lait de coco mélangé avec le piquant du délicieux piment de ketupat. Le saté blengong complète le goût avec une texture douce lorsqu'il est mâché. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter de cette cuisine, il existe de nombreux stands de vente de kupat sableng à Brebes. Habituellement, ce kupat est vendu dans l'après-midi jusqu'au soir, car il s'agit d'un menu de nuit. Le prix est relativement bon marché. Ketupat est vendu pour 7000 rupiah, tandis que saté 5000 rupiah par bâton. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati setiap jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kekasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia.
Chers amis, c'était la chanson de Potret Kubahagia. Je suis content. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. Ce soir avec moi Audrey et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Ce soir, vous allez écouter Hugues M, se place 3e dans les meilleures universités d'Asie du Sud-Est. Chers amis, l'université Gadjah Mada UGM a été classée comme la 3e meilleure université d'Asie du Sud-Est dans le classement publié par 4ICU University Rankings. UGM se classe en dessous des deux principales universités de Singapour, comme l'Université nationale de Singapour NUS, qui est classée en tête, et l'Université technologique de Nanyang, NTU, qui est classée 12e. Le directeur de la Direction des systèmes et des ressources d'information, Widiawan, à travers une déclaration écrite à Yogyakarta, a déclaré que le classement obtenu montre la popularité de l'UGM, vu le grand nombre de visites sur le site web de l'UGM, ainsi que le nombre d'accès d'extérieur à divers sites sous le domaine ugm.ac.id. Le grand nombre de visites sur le site web est utilisé pour aider les étudiants et les enseignants à comprendre l'étendue de la confiance et de la popularité d'une université aux yeux d'un pays étranger. Vidyawan a expliqué que la consultation quotidienne de tous les domaines où gm.ac.id atteignait 1,1 million chaque jour. Alors que les visiteurs quotidiens sont 420 000 par jour, la popularité du site web de l'UGM, a déclaré Widiawan, n'était pas uniquement parce qu'il avait été développé avec une apparence et une navigation attrayante qui le rendait facile pour les visiteurs. Cette réalisation est également soutenue par un contenu et des informations affichées de haute qualité, pertinent et utile. En outre, la popularité du site web UGM est soutenue par une infrastructure adéquate afin que la réponse sur le site web UGM puisse s'exécuter rapidement. Cela se fait en continuant d'augmenter la capacité de bande passante au fil du temps. En 2019, la capacité de bande passante continue d'augmenter jusqu'à présent à 8 gigaoctets. Widiawan a déclaré que le soutien d'une bonne infrastructure de technologie, de l'information et d'une large bande passante permettait au grand public d'accéder plus facilement à divers contenus numériques à l'UGM. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur UGM se place 3e dans les meilleures universités d'Asie du Sud-Est. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup et au revoir.
Kupandang raut wajahmu ada sesuatu mengganggu, nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
terjadi, aku kan berkata.
Of Indonesia.
Jangan
Chers auditeurs, c'était la chanson de Adera Kunto Aji Segara intitulée Mjadi Miliku, tu es à moi. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Pour ce soir, nous vous présentons une chanson traditionnelle de Java centrale intitulée Mano Dadali et Padang Bulan. Bonne écoute. Chers amis, bonsoir. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. De l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Java centrale, intitulée Mano Dadali et Padang Bulan. La musique reflète la culture de chaque région d'Indonésie, mais le développement technologique actuel fait évoluer la musique régionale vers une forme plus moderne et attire l'attention de la jeune génération. La musique de danse électronique est mieux connue sous le nom d'EDM et l'une des types de musique préférée par les jeunes générations d'Indonésiens qui sont capables de faciliter divers genres de musique pour la rendre plus moderne. Comme dans la chanson intitulée Manuk Dadali et Padang Bulan, qui ont été réarrangées par la jeune génération indonésienne. Cela montre qu'il y a encore des jeunes générations indonésiennes qui aiment leurs chansons traditionnelles. Chers auditeurs, voici la chanson Manuk Dadali et Padang Bulan version EDM, la musique de danse électronique, chantée par Mariska. Bonne écoute!
Saat ngapung luhur jauh di awang-awang Meber kenjang-jang bangun tayak kariran Kuku narang goas rejeng panotuk nangali Ngapak mega bari hiberna tarik muru Saha anu bisa nyusul kana tandangna Kandang jeng pertentang tayak bandinganana Dipika gimir dipika serap kusasama Saya karang pangkasian leber walanenu Manuk gadali, manuk panggagana Para bangsa di Indonesia jaya Manuk gadali, pangka koncarana Resep rahici, rukun sakamena Manuk gadali, manuk panggagana Para bangsa di Indonesia jaya Manuk Dadali Pangka koncarana Resep lahici Rukun sakabena In Indonesia Jaya, Manusia Dari Pangka Koncarana, Peserta Hiji Rukun Sakebina.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci beaucoup d'être toujours fidèles avec nous. N'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@vonews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour les informations plus détaillées, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.